BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Pour une fois, on va quitter un tout petit peu le budget et on va s'intéresser aux jeux vidéo car demain s'ouvre un événement très important à Paris, porte de Versailles, le Paris Games Week. Bonsoir Fabrice Larue.
Bonsoir Edwige Chevriot.
Merci d'être avec nous. Les jeux vidéo, bah, c'est devenu votre nouveau bébé, si j'ose dire. On vous a connu à la tête de La Tribune, à la tête de Radio Classique. On vous a connu aussi à la tête de Newell. Vous êtes monsieur plus belle la vie. C'est vous qui avez créé Newell, la première société audiovisuelle de production, que vous avez revendu à TF1. Et puis maintenant, il y a quelques années, vous êtes mis dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, vous dirigez un groupe qui s'appelle Pull Up Entertainment. C'est quand même 260 millions de chiffre d'affaires, 600, 650 collaborateurs, 7 studios. Oui. Vous avez un blockbuster, on va en parler évidemment dans un instant. Ce qu'on peut dire, c'est important d'abord l'ouverture de Paris Games Week. Enfin, c'est devenu quand même un salon très fort, c'est le mondial des jeux vidéo.
Absolument. Ce qui est doublement important, c'est que ça se passe en France, c'est que l'industrie française du jeu vidéo est très créative, et il faut qu'on exporte. Ouais. Et deuxièmement, c'est des rencontres physiques après une période du Covid où beaucoup de manifestations comme ça étaient en virtuel et ça donnait pas d'énormes contacts au niveau des relations studio.
Alors, on verra ça dans quelques instants, que les jeux vidéo, c'est quand même un marché, c'est devenu une industrie mondiale absolument incroyable. 188 milliards de dollars, du moins c'est un peu l'estimation. Mais en même temps, il y a beaucoup de restructurations, on parlera d'Ubisoft, mais avant on parlera de Pull Up. Ce marché, il a cru jusqu'au Covid d'une manière spectaculaire.
Oui. Alors, il y a trois étapes. Il y a eu une explosion pendant la Covid.
Oui.
Puisque les deux éléments, c'est le jeu vidéo, les abonnements aux plateformes comme Netflix. Donc, il y a eu beaucoup de jeux vidéo qui sont vendus pendant la Covid. Nous, on a fait une année historique en 2020-22, alors qu'il n'y avait personne au bureau. Et on a vendu beaucoup de jeux. Ouais. Tout le monde jouait aux jeux vidéo et s'abonnait au Covid. Ça a déversé beaucoup d'argent dans le secteur du jeu vidéo.
Donc trop. Oui, beaucoup trop.
Trop, parce qu'il y a eu des multiples qui sont montés à 14-15 fois. Il y a eu beaucoup d'embauches, une inflation sur les salaires, du retard sur la livraison des jeux à cause du télétravail et de l'absentéisme, et à cause aussi des composants sur des certains nombres de plateformes. Et puis une correction du marché après, notamment aussi avec la remontée des taux.
Oui.
Ce qui fait que beaucoup de jeux et beaucoup de studios ont souffert depuis 2023-2024.
Et on voit qu'en ce moment, il y a beaucoup de licenciements. Et certains parlent de financiarisation de l'industrie des jeux vidéo. Vous êtes d'accord, vous qui êtes au départ quand même un peu un financier tout en étant un industriel.
Vous savez, je ne sais pas
un homme de coup, quoi.
Parce que chez les financiers, je suis un créatif. Chez les créatifs, je suis un financier. Non, notre métier, comme nous l'avons connu dans la presse, comme nous le connaissons dans la radio, comme nous le connaissons à la télévision, c'est toujours l'arbitrage permanent entre les créatifs et les financiers. Vous mettez tout sur les créatifs, ils créent, ils ne gagnent pas toujours d'argent. Vous mettez tout sur les financiers, ils comptent, mais ils ne savent pas créer. Donc c'est l'arbitrage permanent. Ce qu'il y a certain, c'est qu'il y a eu beaucoup d'argent déversé dans les années 2020, 21, 22 dans le jeu vidéo. La création a été débridée, des augmentations de salaires énormes, des masses salariales qui ont explosé, et derrière, des jeux qui n'ont pas été livrés. Donc, il est certain qu'il y a une consolidation du secteur qui est en train de se faire, et une rationalisation des coûts qui est en train de se faire.
Quels sont les... Oui, c'est sans doute peut-être pour ça que du coup, les entreprises, tout d'un coup, se sont dit, bah, tiens, le télétravail, c'est bien, mais enfin, ils passent plus de temps sur leurs jeux vidéo, peut-être, que de travailler pour l'entreprise. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on voit ce mouvement, ce contrebalancier,
le retour au boulot. Je suis d'accord, si les gens passent 7 à 8 heures devant un écran, 5 à 6 heures à travailler, ou 2 à 3 heures à jouer aux jeux vidéo, ça me convient totalement.
Oui, évidemment. Quels sont juste les grands... Qui sont, c'est toujours les Japonais qui dominent cette industrie des jeux vidéo. Les grands
du secteur. Ceux qui sont l'esprit du jeu vidéo, c'est le Japon, évidemment. Ouais. Et c'est Nintendo. Mmh. C'est véritablement ceux qui ont inventé le jeu vidéo il y a 30 ans. Parce que c'est un métier qui est jeune, le jeu vidéo. Mais je vous rappelle que 188 milliards, c'est plus que le cinéma, la SVOD et la musique confondues. Hein.
Ouais.
C'est un marché mondial.
C'est gigantesque.
C'est 95% international. On fait 5% de notre chiffre d'affaires en France. C'est à 92% numérisé. On ne vend plus en physique. Les deux autres gros acteurs, ce sont les Chinois maintenant, et des groupes comme Tencent ou NetEase, qui eux ont 150 milliards et 50 milliards à investir, donc ces gros acteurs. Et puis ce sont les GAFAN. Je vous rappelle que Microsoft vient d'acheter Activision Blizzard pour 67 milliards. Microsoft. Ouais, donc, on voit bien qu'aujourd'hui, en France, en Europe, il faut créer des champions français et européens face à un monde où il y a les Américains qui, avec les GAFAN, la tech, les moyens qu'ils ont, développent, ou les Chinois qui ont un marché domestique d'1,5 milliard et qui doivent venir en Europe financer des entreprises et acheter des studios. Nous, il faut qu'on trouve un modèle où on doit apporter l'indépendance éditoriale, un support financier, industrialiser les process et faire un jeu comme on a fait avec Space Marine. Mais en dehors de l'Asie, le Japon reste quand même historiquement un des plus gros marchés.
3 milliards 400 millions de joueurs. Colossal.
C'est énorme.
Où est essentiellement chinois?
Américain.
Américain.
Nous, aujourd'hui, sur un jeu comme Space Marine, on fait 50% de chiffre d'affaires aux États-Unis. On va dire un tiers en Europe et un tiers le reste du monde. Mm-hmm. La Chine, c'est compliqué. C'est comme parce qu'il y a des notions de contraintes. Et s'il y a trop de sexe, trop de sang, il y a un filtrage énormément de rentrer en Chine. Et je vous parle de ce marché. Nous, on vient de faire plus de 4,5 millions de joueurs sans avoir vendu beaucoup de copies en Chine.
Ouais. Juste avant de passer sur Pull-Up, c'est intéressant de voir, pour l'instant c'est encore, enfin pas de plus en plus, c'est 93 milliards, on parlait des revenus des jeux vidéo, sur le mobile.
Mobile. Hein. Ouais.
La console c'est plus que 60 milliards, donc il y a quand même un peu une aversion, et puis 43 milliards sur les PC. Ça bouge beaucoup, c'est une photographie aujourd'hui.
Le mobile a beaucoup explosé pendant la Covid, et transport en commun. Donc c'est fou. Aujourd'hui, la croissance est tirée par le PC et la console.
Ah oui?
Oui, principalement le PC et les consoles aussi parce que
c'est un peu contre-intuitif, non?
Non, parce qu'on a eu beaucoup de retard sur les livraisons de consoles, notamment la PS5 avec la Covid. Ils ont des problèmes de composants et donc il y a eu du retard. Mais aussi le jeu vidéo, il faut savoir par rapport à la presse, la radio, la télévision, qui sont des métiers de divertissement, d'entertainment, la tech drive énormément le jeu vidéo. La tech est un élément moteur. Une nouvelle console avec un nouveau jeu, ça va attirer du nouveau client. Et ceux qui sont...
Et là, on attend la nouvelle console.
On attend la nouvelle console avec le nouveau jeu.
Oui, qui doit sortir quand? Enfin, vous avez une date, vous savez?
Non, ça c'est... Alors là,
c'est des secrets
que les fabricants
pour
gardent,
Noël,
vu
peut-être.
La compétition et la concurrence mondiale.
Oui, ça, on a le sentiment. Alors, Pull-Up. Avant, c'était Focus. Vous avez changé de nom, c'était il y a 9 mois.
Hein. Il y a 9 mois. C'est-à-dire, il y a plusieurs choses. Focus, c'est le
point de départ.
Le publisher, c'est la plateforme qui était un des premiers publishers mondiaux, puisque nous étions le quatrième publisher mondial, Metacritic. Metacritic, c'est une unité de mesure. On était à 92 sur 100 Metacritic.
Et ça veut dire quoi comme mesure Metacritic?
C'est le taux de satisfaction des journalistes ou des joueurs sur les jeux. Donc il y a deux choses, il y a le taux de satisfaction des joueurs, le taux de satisfaction des journalistes qui testent les jeux et qui donnent une note.
D'accord.
82 sur 100. Quand on dépasse les 70-75, c'est formidable. Mais Focus est un bon publisher, la preuve c'est du café Space Marine, mais n'était qu'un publisher.
Space Marine c'est votre blockbuster, on va dire.
Bah Space Marine c'est rare un jeu comme ça français soit dans le top 3 des ventes mondiales quoi. C'est énorme, top 3. Et on est toujours aujourd'hui, on a été le premier jeu de vente mondiale pendant 4 semaines, puisqu'on l'a lancé le 9 septembre, et depuis le début octobre, on est dans le top 3 des ventes mondiales. C'est énorme.
C'est l'histoire de quoi?
On a fait 200 millions
que j'ai pas joué,
hein, en un mois.
J'ai pas essayé, pardon.
Je sais pas si vous êtes la cible.
Je vous remercie.
Mais je pense. C'est quand même adresser un public de jeunes qui connaissent la franchise Space Marine. D'ailleurs, il y a une série qui va être lancée sur Amazon dans laquelle il y a un épisode sur Space Marine. Ce sont des marques très très fortes de l'univers Warhammer. Et c'est un public de jeunes qui aime bien se promener dans un univers avec Titus, que vous voyez à l'écran, et qui est un jeu de shooter quand même. Donc, c'est un jeu un peu de tête. Testostérone, hein, comme.
Ouais. Bah, du reste, l'industrie chez vous, Fabrice Larue, il n'y a pas une femme. Chez Pull-Up, il n'y a pas. C'est un jeu. Enfin, c'est un univers, comme tout l'univers de la tech, totalement masculin.
Alors, il n'y a pas une femme, il y en a, mais à votre question, il n'y en a pas suffisamment. Vous avez entièrement raison.
Vous allez entre. Il y a des alibis toujours, bien sûr. Mais...
Non, mais on cherche. Alors, d'abord, à notre board, aujourd'hui, on a 3 femmes sur 7.
Oui, bon, mais ça, des bars, c'est obligatoire, donc c'est différent.
C'est un peu plus facile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un métier qui était au départ très masculin, Aujourd'hui, quand même, la consommation des jeux vidéo, on arrive à 48% femmes, 52% hommes, ce qui est bien, avec une moyenne d'âge de 35%, mais on a du mal à trouver...
Alors, qui regarde, on disait qu'il y a 3,4 milliards de joueurs, c'est essentiellement des hommes ou...
52% hommes, 48%
ouais,
femmes.
Oui, parce que j'étais assez surpris en fait.
C'est grâce au mobile. Parce que je suis certain, si vous prenez les transports en commun, quelqu'un, moi je l'ai vu dans le transport, tout le monde joue un jeu vidéo à Candy Crush, au Backgammon, ou au poker, à Tetris. Donc c'est le mobile qui a développé pour les femmes. Et c'est, paradoxalement, qu'on ne le sait pas toujours, c'est la moyenne d'âge est 35 ans aujourd'hui. Donc c'est plus jeune. C'est un métier qui a 30 ans. Donc ceux qui ont démarré dans le jeu vidéo il y a 20 ans, quand ils en avaient 15, ils en ont 35.
Mais alors est-ce que la jeune génération, 18-24, qui est très différente de cette génération Y, est-ce qu'elle regarde les jeux vidéo ? Est-ce qu'elle joue aux jeux vidéo ?
Elle joue beaucoup aux jeux vidéo et elles en font des réseaux sociaux. Si vous prenez Fortnite, avec sa bataille royale, c'est plus qu'un jeu de vidéo, c'est un réseau social. Les jeunes, ils regardent, ils jouent aux jeux vidéo, mais ils regardent des séries, ils regardent des documentaires, ils chattent dessus, c'est devenu un réseau, c'est devenu un média mondial. Mais c'est tout de suite 3, 4, 500 millions de gens qui discutent entre eux.
Ouais, c'est dingue, c'est des mouvements absolument colossaux.
C'est énorme. Ouais. Moi qui suis en France, comme vous savez, entrepreneur dans les médias depuis 40 ans, quand j'ai changé de secteur, toujours dans le domaine de l'entertainment, divertissement, le jeu vidéo m'a donné une fenêtre sur le marché avec une profondeur de marché qui est énorme. Alors, nous aujourd'hui, on fait 200 millions en un mois, mettons. Le marché, il fait 188 milliards.
Ben, je vous remercie, c'est la question que j'allais vous poser, Fabrice Larue. C'est-à-dire que Suez Marine, c'est l'ensemble pull-up, quoi, c'est 234 millions de chiffre d'affaires, je le disais tout à l'heure.
Sur le trimestre.
Sur le trimestre, donc on multiplie...
Non. On ne pourra pas multiplier par 4. Okay. Parce que 234 millions, sur le trimestre, c'est plus que tout chiffre d'affaires l'année dernière.
Oui.
Donc, on a beaucoup de chiffres d'affaires.
Vous avez un exercice décalé 2023-2024.
Oui, un peu plus quand même.
Oui, et donc ça sera quoi sur 2024-2025?
On ne donne pas de guidance, mais on a fait 176% de progression sur le premier trimestre. Je ne pense pas qu'on continuera, parce que le jeu va connaître une durée de vie un peu plus longue et ça va se calmer.
Ouais.
Mais on va peut-être doubler le chiffre d'affaires.
Ouais.
Mais ce qui est important, mais ce qui est rien à l'échelle mondiale.
Ben voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que... Vous êtes français, vous avez donc 7 studios, parce que vous êtes à la fois
publisher et éditeur et développeur.
Voilà. Comment vous pouvez résister face au même un géant comme Ubisoft mais ou d'autres, l'avenir de Poulap, c'est quoi?
Si je m'y suis investi personnellement et financièrement avec une équipe, puisque J'ai une équipe qu'on a rassemblée maintenant depuis quelques mois qui est très performante. C'est que je pense que le problème n'est pas d'être gros petit, le problème c'est d'être agile et créatif.
Ben oui, parce qu'il faut sortir. Là, un jeu phare.
Regardez, là on a été agile et créatif avec Space Marine. Ouais. On a trouvé une licence de grande qualité. On l'a fait fabriquer un studio partenaire qui s'appelle Saber. Et en termes marketing, on a dépensé 10 fois moins d'argent qu'un studio triple A. Donc, faut être plus créatif, faut être plus manœuvrant, En plus, nous on a adressé un segment qu'on appelle le segment triple I indépendant et double A. Où les jeux, ce n'est pas des gros blockbusters de 100 millions de dollars. Donc, c'est des jeux qui coûtent moins cher à fabriquer et dans lesquels il faut qu'on trouve une place, c'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve un segment, une niche. Enfin, sur un marché de 180 milliards, une niche, ça peut tout de suite faire 200, 300, 400, 500 millions. On trouve un segment, on adresse ce segment. On sait maintenant, avec de la data, connaître ce public et on sait lui parler grâce au métier de publishing.
La question aussi, c'est... parce qu'on voit bien, c'est un des problèmes d'Ubisoft, là. C'est que, il décale son jeu parce qu'il n'était pas complètement finalisé, Assassin's Creed. Et que là, du coup, son titre a plongé de 40%, 45%. C'est multifacteur, cette chute boursière. Mais vous avez.
Multifacteur, absolument.
Mais vous avez quand même le fait de ne pas délivrer.
Ouais.
Comment. C'est le principal enjeu, en fait, dans votre métier.
C'est le principal enjeu, et vous avez entièrement raison. Et d'ailleurs, si on parle de Space Marine, je l'ai reculé de 15 mois.
Ah oui, c'est énorme.
15 mois. Alors, notre enjeu, il est là.
Il faut avoir les reins solides, quand même.
Alors, il faut financièrement, avoir les reins solides. Mais notre enjeu, il est là. Mais maintenant, moi, ce que nous essayons d'apporter, avec Geoffroy Sardin, notre directeur général, plus Ahmed Boukhalifa, notre patron de studio, c'est d'apporter des jeux, maintenant, où on va installer du live, avec des revenus récurrents et prédictibles. c'est-à-dire éviter ces activités...
Des à-coups,
des up and down, des prototypes, comme on avait un peu dans le cinéma. C'est-à-dire qu'avant, on lançait un film de cinéma, bon, ça marchait, c'est super, ça marchait pas, c'était fini. C'était un peu... Donc, on sort des licences, d'abord on prend des licences donc qui ont une communauté, qui ont des joueurs, et au lieu de sortir un jeu, on va sortir du live en mettant du contenu régulièrement.
Par exemple ?
Bah, on va rouvrir des mondes, on va mettre des cosmétiques, on va continuer à alimenter le jeu, on va remettre des maps, on va remettre des season pass, on va mettre des tas de choses.
Mais vous changez un peu de métier à ce moment-là, on n'est plus dans les jeux vidéo.
On est dans la communication avec une communauté avec laquelle on échange.
Ouais, c'est ça.
Avec le fait aussi qu'avec cette data, on sait comment il consomme le jeu, on sait comment on peut l'emmener, on sait ce qu'il demande, on sait comment l'accompagner. Ça, c'est le savoir-faire d'un publisher et d'un développeur. C'est vraiment un métier avec, aujourd'hui, effectivement, l'avantage, c'est qu'on fait du B2C, c'est-à-dire qu'on s'adresse exactement au consommateur final.
En fait, pour vous, et du reste, vous l'avez cité deux fois, donc c'est toujours révélateur, Fortnite, qui est devenu, qui est un jeu vidéo, mais qui a un tel succès, une telle ampleur, que c'est devenu, vous l'avez dit, un réseau social, quelque part, c'est un peu l'exemple à suivre.
Pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais. Ce qui se rapproche, le métier que j'ai fait, c'est un média. C'est plus un jeu vidéo, c'est un média.
Ouais,
mais lui, c'est un média franco-français déterminé par une zone géographique ou une autorisation d'émettre. Les FM, vous avez une autorisation d'émettre, elle est limitée géographiquement, avec des contraintes, avec l'ARCOM, qui vous donne des devoirs et des engagements. Là, vous avez un média qui est mondial.
Là, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a aucune contrainte. Enfin, heureusement qu'il y a eu un tout petit peu la DSA et le DMA, mais c'est tout.
Absolument, mais je suis d'accord avec vous.
C'est Mathieu, je le disais, donc il a explosé, on lisait les chiffres tout à l'heure, pendant le Covid, après le Covid, et là le réveil est un peu brutal. Donc parce qu'il y a eu trop d'argent, donc il y a des licenciements partout. Il faudra combien de temps pour digérer tout ça ?
Alors d'abord,
c'est après Covid quoi.
Vous savez, moi je crois pas au phénomène de balancier dans un sens et au phénomène de balancier.
Ah les cycles économiques, vous y croyez pas ?
Non, je veux dire que ça a été j'aurais dû dire autrement. Je crois à ces phénomènes, c'est-à-dire que ça a été un phénomène où il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, nous, on n'a pas licencié chez Poulop, on a refusé.
Ouais.
Il y a deux ans, on me disait, l'actif, c'est les collaborateurs, il faut embaucher plus 15%, plus 20%. Et aujourd'hui, la variable d'ajustement, ce sont les collaborateurs. Donc nous n'avons pas licencié. Et on continue, on a intéressé les collaborateurs à notre projet. Aujourd'hui, en plus, on est success story, parce qu'avec Space Marine, ils sont tous heureux.
Ah bah, bien
évidemment,
sûr,
quand ils ont un jeu qui
ça
marche,
jackpot,
ils adorent, ils vont avoir l'intéressement, de la participation, ils sont heureux.
Comment vous voyez l'avenir d'Ubisoft, vous ?
Ah, je sais pas. Je sais pas. D'abord,
acheté par un Chinois, par Tencent, qui est déjà actionnaire.
Oui.
Peut-être. Ça serait quoi ? Ça a un impact, quand même ?
Je sais pas. Moi, je me concentre sur Poulop. C'est vrai que c'est une des plus beaux fleurons français. Peut-être qu'ils vont trouver un accord avec Tencent, je ne sais pas.
Mais l'impact sur le marché ?
Pardon ?
L'impact sur les marchés ?
Le problème sur le marché, il est double. C'est-à-dire que ça jette l'opprobre sur le secteur du jeu vidéo.
Oui.
Et ça, c'est.
L'opprobre, c'est fort, oui.
Ça jette une mauvaise image sur le secteur du jeu vidéo et sur les sociétés cotées du jeu vidéo. Donc, on est obligé de ça. Donc, moi, je pense que le secteur, en général, a intérêt de montrer que la France est bonne en création et qu'elle se développe.
Ouais.
Donc, ça jette un peu en disant est-ce que les Français savent faire du jeu vidéo, les exporter ?
Voilà, eh ben écoutez, on va vous souhaiter un bon Paris Games Week et puis surtout encore plein de succès avec votre jeu vidéo, parce que visiblement, là, vous avez dégoté le jackpot. Merci Fabrice Larue.
On essaye de trouver des belles marques qui puissent se développer auprès de communautés.
Merci beaucoup. Le patron de Poulop était notre invité.